Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lia Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe et tous les 5 épisodes, comme c'est le cas aujourd'hui, d'un avocat reconverti. Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à ceux qui ont découvert Fleur d'Avocat récemment parce que j'ai bien l'impression que vous êtes très nombreux de par vos messages et de par ce que je vois des écoutes à avoir découvert le podcast. Et donc voilà, bienvenue, vous avez plein d'épisodes à écouter puisque vous vous êtes rappelé le train en marche et donc c'est formidable et je suis heureuse de vous compter parmi les nouveaux auditeurs et les auditeurs en général. Aujourd'hui, mon invitée est Pauline Aurel. Pauline a exercé pendant plusieurs années au barreau de Paris. Elle faisait du droit des affaires et plus particulièrement du droit social avant de partir en entreprise comme juriste d'entreprise et enfin de laisser le droit, notamment pour faire de la sculpture. Elle est donc aujourd'hui artiste et sculptrice et elle nous parle de ce long cheminement qui date un peu, parce que ses années comme avocate étaient il y a un petit moment déjà, ce qui explique aussi en partie que vous l'entendrez vraiment se remettre dans l'époque, donc prendre son temps pour vraiment réfléchir à comment est-ce qu'elle se sentait à certains moments de ses choix professionnels. Mais c'est très chouette de voir cette évolution aussi sur le long cours, après avoir laissé la profession d'avocat, l'exercice comme juriste, et ensuite d'avoir encore changé de peau pour devenir sculptrice. Je remercie Charlotte Aurel Olivier, maître Charlotte Aurel Olivier, sa sœur donc, de m'avoir parlé de Pauline. Je remercie également Mathilde Jure et Marion L pour leurs avis sur Apple Podcast. C'est très utile et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à prendre votre téléphone ou votre tablette et à laisser un avis sur Apple Podcast. Vous êtes plus de la moitié des auditeurs à écouter Fleur d'Avocat sur Apple, donc prenez quelques minutes pour partager ce que vous pensez du podcast. Ça aide à faire connaître le podcast, ça m'aide dans mes algorithmes et donc c'est formidable. Et je remercie aussi et encore Aude Coche qui s'est occupée de la post-production du podcast. Voilà, je vous laisse donc en compagnie de Pauline Aurel et moi-même pour cette discussion et vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Pauline Aurel.
Bonjour Lila.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Mais je vous en prie.
Alors Pauline, racontez-moi si vous le voulez bien, comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Alors pourquoi et comment, c'était il y a longtemps, hein, donc il faut que je me souvienne. Mais enfin en gros, si j'étais dans une famille de juristes pour lesquels la référence au droit et à la réflexion juridique était depuis le biberon. Donc c'était assez naturel d'avoir cette ouverture qui était un peu présentée comme, et d'ailleurs vécue c'est vrai aussi, comme comment apprendre les règles de la société dans laquelle on vit. Et donc voilà, par osmose parentale au départ.
Et ça vous plaisait quand même comme orientation ?
Ah oui, tout à fait.
Vous posiez pas trop de questions ?
Non, pas du tout. Non. J'avais certes passé un bac scientifique, mais et j'avais commencé par une hypocagne, mais c'était plus à cause d'histoires de déménagement et j'avais passé mon bac en Polynésie française. Et du coup, en rentrant, j'ai passé une année alors que je pensais faire du droit, mais en faisant quand même une hypocagne parce que j'étais rentrée en milieu d'année. Et ensuite, j'ai commencé mes études de droit. Non, tout à fait intéressée et pas du tout forcée. Non, c'était plus dans la culture que c'était imprimé, pas dans les ordres du tout. Donc, oui. Oui. Et donc, j'ai adoré la logique juridique et les études de droit que j'ai d'abord fait à Angers, en fait, une première année. Et puis ensuite, j'étais à Malakoff pour ensuite passer en licence maîtrise à SAS, d'où j'avais inauguré donc ça va vous paraître très loin, mais les échanges Erasmus. On était les premiers étudiants, on était 4 à partir et inaugurer les échanges Erasmus avec Londres. Et c'est comme ça que j'ai, après ma maîtrise aussi, du coup, connu le programme de LLM, Master of Law. Et j'ai fait un peu.
Oh là là, vous allez très vite. Et alors, cette année, cette inauguration d'Erasmus, c'était comment d'inaugurer Erasmus?
C'était très amusant, très excitant. C'était le début du programme. Donc, on était 4 élèves d'Assa, si mes souvenirs sont bons, à partir faire, je crois, un trimestre ou une demi-année, j'ai un doute, à Londres, où on a débarqué. C'était un échange avec Queen Mary College à Londres, et on suivait les cours sur place, on passait des épreuves avec les autres étudiants, et la validation était faite au niveau d'à l'époque de ce qu'on appelait la licence, la maîtrise. Maîtrise, ouais, c'était undergrad, et voilà. Et donc après, par ailleurs, j'ai postulé du coup au postgrad qui est Master of Law LLM de University of London, qui est entre LSE, Queen Mary, UCL, King's College.
D'accord. Et cette année ?
Cette année, c'était une année assez longue, puisque c'était de septembre à juillet, je crois me souvenir. Donc, c'était une année avec... C'est un programme assez international. Les Anglais n'enchaînent pas forcément le postgrad immédiatement après leur undergrad. Ils font souvent quelques années de soit d'exercice, soit d'autres choses, et ensuite reviennent faire ce postgrad programme, et très international aussi. Il y avait beaucoup de Grecs qui faisaient du maritime law, je faisais moi de l'international tax, European law, et voilà, un programme assez international, où il y avait, alors que pendant l'undergrad, donc l'année d'échange Erasmus, on était effectivement dans un programme très anglais. Dans ce programme postgrad, c'était très international. Il y avait des Anglais, mais beaucoup d'Américains, de Grecs, d'Espagnols, pas beaucoup de Français encore à l'époque, des Chinois. Enfin, voilà, c'était très
international. Et vous faisiez tout ça dans quelle optique ? Est-ce que vous aviez une optique particulière au moment de... Est-ce que vous vouliez exercer de façon... avec un exercice international ? Est-ce que...
Oui, à l'époque, je visais... Mais à l'époque, j'avais passé un bac C parce qu'il fallait faire un bac C parce que ça ouvrait le plus de portes. J'avais fait du droit et j'aimais le droit. Et puis, effectivement, l'idée de cumuler un diplôme français avec un diplôme international me semblait être une ouverture. Et l'anglais, effectivement, j'avais toujours, j'ai toujours eu un goût pour l'international. Une optique précise, non, parce qu'à l'époque, je me souviens que j'avais hésité, j'avais fait un stage à la Commission européenne, je faisais du droit de la concurrence qui m'intéressait beaucoup, et j'avais hésité beaucoup entre ce programme à Londres et l'école de Bruges, qui était plus européen et plus institutionnel. Et effectivement, Londres m'a paru peut-être plus ouvert. Et en plus, je n'ai pas été au bout du process de l'école de Bruges, donc je me suis faussement posé la question.
Mais du coup, plus ouvert dans le sens plus... que les carrières non institutionnelles, non fonctionnaires, on va dire, vous attirez plus finalement que...
Alors honnêtement, peut-être que je me suis un peu réconfortée sur le fait que je n'avais pas peut-être pris les moyens de passer le concours de Bruges. Non, j'ai jamais eu d'objectif très précis. Les choses se présentaient, et celles qui me semblaient être les plus ouvertes étaient celles que je suivais. Et effectivement, à Londres, c'était à la fois du droit public, du droit fiscal international, mais aussi du droit privé, alors que Bruges me faisait un effet plus... Sciences Po pour préparer ou ENA, enfin préparation et concours administratif. Mais j'avais ni une vocation particulière, ni un rebut particulier contre les institutions.
Et quand vous terminez cette année en Angleterre, donc où vous avez progressivement ouvert beaucoup de portes, comment est-ce que vous appréhendiez les choses ? Comment est-ce que vous avez suivi par la suite ?
Eh bien, en rentrant, j'ai passé le barreau en septembre, et donc j'ai enchaîné sur ce qui était à l'époque le FB à Paris. Donc j'ai fait l'année d'école du barreau, et puis j'ai enchaîné sur le stage en droit européen, et voilà. Et ensuite j'ai pris...
Et ce stage s'est bien passé ?
Ce stage s'est bien passé, il m'a laissé des traces, enfin, il était très excitant parce que à l'époque, il faudrait que je fasse un effort sur l'année, ça doit être dans les années 91, 12, 13 peut-être, je crois que j'ai prêté récemment en 91, c'était l'ouverture des réseaux de distribution d'électricité à la concurrence. Enfin, à l'époque, ça n'était pas encore le cas. Et je me souviens de mon maître de stage qui m'avait convoqué dans son cabinet à 20h et qu'on est parti à 2h du matin à Luxembourg pour soutenir un dossier de ce premier client italien qui produisait d'électricité de l'autre côté de la frontière et qui distribuait à l'Enel, qui était l'EDF italien à l'époque, et qui revendiquait de pouvoir leur distribuer en France en échappant au monopole de distribution de l'EDF. C'était le début de la fin de l'EDF, enfin dans son monopole en tout cas. Donc c'était assez, c'était assez excitant. On s'est retrouvés à Luxembourg avec tous ces traducteurs dans toutes leurs petites boîtes et ça m'avait pas mal amusé. Mes souvenirs de ce stage, qui par ailleurs comportait aussi des dimensions humaines un petit peu spéciales. Le maître de stage était un petit peu, était connu pour ça d'ailleurs, un petit peu caractériel. Ça savait piquer quelques hurlantes et se faire craindre de pas mal de ses interlocuteurs. Donc pas forcément.
Et ça vous avait fait quel effet?
J'ai été à la fois séduite par le sujet, par l'environnement, peut-être par la personnalité, et à la fois, c'était pas très agréable, non. C'était, d'un point de vue humain, pas hyper agréable.
Et du coup, dans la poursuite, est-ce que, je sais pas, vous vous êtes posé des questions du fait de ces rapports humains, de ce...
Non, parce que à l'époque, je pensais que quand même, c'était le métier que je voulais faire. Mais ensuite, effectivement, quand j'ai recherché une collaboration, j'ai intégré un petit cabinet. Enfin, c'était le cas d'ailleurs du précédent. C'était un petit cabinet avec grandes ambitions, mais petit. Et le deuxième, donc, enfin, celui que j'ai intégré dans le cadre d'une collaboration, était un petit cabinet confortable et plutôt chaleureux, avec deux, trois collaboratrices plutôt sympa, où là j'ai fait du droit des affaires générales et où j'ai été projetée comme tous les jeunes stagiaires à me retrouver en garde à vue sur des dossiers assez improbables qui étaient ceux que le maître de stage n'avait pas envie de traiter.
Vous avez des souvenirs de ces dossiers improbables?
Oui, tout à fait, très précis, parce que c'était... Je me souviens, en l'espèce, au message, j'ai dit, tiens, il faut que vous alliez tout de suite au commissariat de... Non, pas du tout, pas au commissariat, chez le juge d'instruction. Et je découvrais un dossier qui était un Indien qui était... je crois que c'est l'hôtel Athénée, je ne sais plus, enfin, plus, à l'urge 5, qui était accusé de proxénétisme aggravé. Et je me suis retrouvée à défendre ce pauvre garçon qui mettait tous ses espoirs en moi. Et moi, j'étais convaincue de son innocence. Et donc, j'ai plaidé sa mise en liberté parce que sa fille l'attendait à la sortie de l'école. Et quand le juge a décidé de la mise en détention, j'étais absolument désespérée en me disant que c'était horrible, que ce pauvre type n'avait pas eu l'avocat qu'il devait avoir. Enfin bon. Et après, effectivement, en revenant dans le dossier, il y avait peut-être matière... effectivement à le maintenir en détention, mais j'en avais pas conscience et c'est peut-être là que je me suis dit d'ailleurs, tiens, finalement c'est pas idiot de projeter ces pauvres jeunes stagiaires convaincus de l'innocence de leur client, alors que le maître de stage probablement avait une meilleure connaissance de l'ensemble du dossier et savait que c'était peine perdue et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'y envoyait. Ça, c'est un souvenir de...
Un raisonnement un petit peu par l'absurde, c'est-à-dire, bon, ils vont y aller avec toute leur innocence et toute leur naïveté et leur envie de sauver le monde.
C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'espère que c'est au moins ça qui l'a motivé et pas seulement l'incompétence. Mais non, je pense que c'est ça en réalité. Enfin, moi, j'étais tellement convaincue de son innocence et j'ai mis tellement toute mon énergie à établir qu'il avait à l'époque, je me souviens bien, c'est loin tout ça, hein. Mais bon, les garanties qu'il fallait bien et l'absence de risque pour la société. Enfin bon, il y avait des critères à remplir que j'ai développés, mais ça n'a manifestement pas convaincu.
Et qu'est-ce qu'une jeune avocate en droit des affaires et en droit de la concurrence faisait dans un tel dossier pénal?
Eh bien, ça, c'est une question que je peux... Oui, que, justement, je pense qu'elle n'avait à être dans ce dossier que par l'innocence qu'elle comportait. En fait, en réalité, dans ces petits cabinets... voilà, c'était, je ne sais pas, pour rendre service à quel client que j'héritais de ces dossiers qui n'étaient pas du tout dans la ligne habituelle. Mais comme c'était un petit cabinet d'affaires, il devait faire plaisir à certains clients, j'imagine, et donc accepter de prendre ces dossiers-là.
Et donc, des dossiers un peu comme ça, vous en avez eu plusieurs ?
J'en ai eu, non, c'est celui qui m'a le plus frappé parce que c'était du pénal et que c'était pas du tout mon, ce effectivement que je pensais savoir faire, même si à l'époque je savais pas faire grand chose. Mais non, j'ai aussi plaidé, enfin, c'est marrant que j'ai ces souvenirs-là, mais c'est ce qui me choquait le plus, c'est les choses sur lesquelles j'étais débarquée. Dernière minute, combien de fois ils me disaient tiens, bah demain vous prenez l'avion pour Aix devant la cour d'appel, tel dossier fiscal que j'avais jamais vu, je découvrais le dossier de plaidoirie dans l'avion. Et même d'ailleurs à l'arrivée, ça m'est arrivé de m'apercevoir que j'avais pas le bon dossier et qu'il fallait néanmoins plaider. Donc je demandais à l'adversaire de bien vouloir me prêter son dossier 5 minutes avant l'audience. Enfin, c'était voilà, j'ai ces souvenirs-là un petit peu du rail.
Et vous le viviez comment, ça, ce côté un peu abrupt, indépendamment de la matière, mais ce côté un petit peu mobilisation dernière minute sur des sujets sur lesquels vous n'avez finalement pas planché qu'est-ce que ça vous faisait à vous comme
sentiment ? À l'époque, j'en étais pas plus choquée que ça, parce que je pensais que ça faisait partie de, voilà, du parcours du jeune collaborateur malléable et corvéable. Ça ne m'était pas super à l'aise, parce que je suis plutôt un genre un peu à bien aimer contrôler un peu ce sur quoi je pars. Donc, je ne peux pas dire que je trouvais ça génial. Mais bon, ça, à l'époque, j'étais agacée, mais je pensais que ça faisait partie de l'exercice du jeune stagiaire.
Et cette collaboration, elle a duré longtemps ?
Je pense 4 ans quand même.
Ah, quand même, ouais.
Ouais. Alors je pense 4 ans quand même. Ouais. Et puis elle s'est terminée parce que voilà, c'était un profil assez conforme à une certaine génération du barreau et. Là, je vais exploser tous les scandales, mais non, c'est pas un scandale, mais voilà, il y a un moment où il fallait que les collaboratrices restent ou s'exécutent ou disparaissent. Et moi, j'ai choisi de partir plutôt.
Ah, bon. On est sur ce schéma-là.
Oui, qui était quand même assez courant à ma génération. Je ne sais pas si ça a changé.
Oui, j'ose espérer que ça change, mais bon, c'est vrai que les dossiers sortent, donc finalement, on se demande si ça change vraiment. Mais vous, c'était quelque chose qui était assez prégnant dans vos penseurs de votre génération ?
Oui, je pense que dans ma génération, oui, beaucoup plus. Moi, j'étais assez naïve, donc il m'a fallu du temps pour comprendre. Mais ça devait être assez courant. Voilà. C'était pas non plus...
Vous disiez, j'étais naïve, donc il m'a fallu du temps pour comprendre, c'est-à-dire que vous ne voyiez pas vraiment ce qui se passait, du coup, votre naïveté faisait que vous ne voyiez pas trop peut-être des perches qui vous étaient tendues, des insinuations qui vous étaient faites. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire ?
Non, je veux dire que peut-être que c'était... anticipable et que oui, effectivement, aujourd'hui je détecte mieux ce genre de d'environnement, et qu'à l'époque non, je n'anticipais pas.
Et donc vous avez choisi de partir parce que
j'ai choisi de partir parce que si de toute façon voilà, et puis que c'était bien au bout de 4 ans de changer quand même, et que je m'étais spécialisée en droit social et que ça m'intéressait de creuser ça, et du coup, et effectivement,
comment est venue cette spécialisation en droit social ?
Par la spécialisation de mon maître de stage de l'époque. C'était une de ses spécialisations, donc effectivement j'avais fini par prendre ces dossiers là
qui vous avait plu et
qui me plaisait bien. J'aimais bien la dimension jurisprudentielle, comme le droit administratif, que j'avais bien aimé pendant mes études. Et voilà, alors c'était pas spécifiquement international, parce que c'est quand même assez franco-français, le droit social. Or, je venais, moi, d'une formation finalement européenne, donc ça paraissait pas évident, mais je traitais quand même quelques dossiers en anglais. Et en tout cas, voilà, l'étape suivante, c'est que j'ai intégré un cabinet plus important où il y avait des équipes de collaborateurs, plusieurs associés, dont des associés. Non, d'ailleurs, il n'y avait pas d'associés en droit social. J'étais une équipe de droit social qui était rattachée à un cabinet d'affaires. Donc, avec l'avantage d'être nourrie, effectivement, de dossiers variés, mais néanmoins sans que la matière soit suffisamment valorisée au niveau de l'association des... Et voilà, c'est ça ce dont je me souviens. C'est-à-dire que la matière était intéressante, mais après, sur l'histoire de facturation, évidemment, on facture moins en droit social qu'en fusion-acquisition. Et à l'époque, la structure du cabinet n'avait pas son associé. Et du coup, on était un peu toujours la dernière roue du carrosse. Et ce n'était pas très confortable dans les jeux politiques internes.
Cette collaboration, vous l'avez recherchée? On est venu vous chercher? Comment ça s'était passé, le mouvement du premier cabinet au second?
Je ne sais plus, tout d'un coup, je pense que j'avais dû peut-être répondre à une annonce. Parce que, oui, je pense. Je ne me souviens plus, tiens.
Bon, c'est pas très grave.
Ouais.
Et donc, vous arrivez dans ce cabinet où la matière est intéressante, mais effectivement, la géopolitique interne est compliquée parce que structurellement, le fait qu'il n'y ait pas d'associés, le fait que vous soyez un petit peu là pour peut-être tomber les dossiers accidentels en droit du travail qui se présentent, enfin, tout
voilà,
ça.
Voilà, c'était un peu charnière. C'était un cabinet, si mes souvenirs sont bons, on était une vingtaine d'avocats. Et j'y ai passé quoi l'étape suivante, c'était 98. J'ai dû y passer 4 ans aussi, peut-être.
Quand même.
Oui, oui. Enfin, j'aurais dû vérifier les dates, mais
ouais, non, voilà, c'est pas grave.
Il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est un moment où là, ce cabinet d'ailleurs a aussi, certains associés sont partis. Et a commencé à se structurer un peu en réalisant qu'il fallait renforcer la représentation du droit social dans les intérêts internes. Et voilà. Et moi, j'ai à ce moment-là aussi considéré que le métier d'avocat présentait des avantages, mais cette dimension justement politique, ce qui m'échappait un peu. Moi, j'étais plus dans le goût du dossier que dans la dimension politique. Donc j'étais un petit peu moins certaine de trouver dans le milieu des avocats l'endroit le plus épanouissant pour mon profil. Et du coup, là, effectivement, et à cause de mon profil international, on m'a chassée pour monter le service juridique social dans un grand groupe américain, franco-américain.
Et ouais, donc, une sacrée opportunité qui s'est présentée à vous au bout de 8-9 ans de carrière.
Sacrée opportunité.
Parce que c'est un sacré challenge quand même d'aller ouvrir un pôle droit social dans un cabinet américain. Enfin,
c'est pas un cabinet. Alors, j'ai quitté le barreau.
Ah d'accord, c'était en entreprise.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que vous avez été chassé alors que vous aviez déjà décidé quitter le barreau parce que vous commenciez à être un petit peu fatiguée de ces histoires
Absolument,
politiques.
absolument. C'est, non seulement
Donc
j'avais
vous
été fatiguée, mais en plus
sur le marché, ouais.
Oui, mais plus que consciente. En fait, les associés, je sais qu'il y avait un associé avec qui était un peu une grande gueule et qui ne devait pas apprécier mon humour et donc qui m'avait signifié que je ne serais jamais associée. Je comprenais que... Voilà, c'était pas mon environnement. Non, c'était clair. Hein. On m'avait dit, tu prends le train de trouver ailleurs. Et ça s'est présenté à ce moment-là. Et c'était effectivement une bonne opportunité.
Ouais, et vous, c'est toujours un mélange de circonstances, mais c'est vrai que c'est intéressant de l'explorer parce que vous, est-ce que du coup, le fait qu'on vous dise, non, mais vous serez jamais associé, tu seras jamais associé, ça va pas le faire. Est-ce que que vous vous étiez dit, si je peux continuer dans ce métier, peut-être pas ici, mais ailleurs et autrement? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous disiez, non, mais en fait, manifestement, il faut tel type de compétences ou tel type d'appétence, justement, pour ces aspects plus politiques par rapport à mon exercice, et en fait, j'ai pas envie. Donc, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de ce qui fait que, en fait, vous avez tiré un trait sur la robe à ce moment-là, ou est-ce que c'était, j'évoluerai pas ici parce que, en fait, je suis pas bien dans ce cabinet et j'ai pas de perspective, et on me le fait bien comprendre. Et puis, alors que je cherche ailleurs, il se trouve qu'il y a une opportunité en dehors du barreau qui se présente, mais ça aurait pu être une opportunité dans le barreau. Enfin, vous vous souvenez un petit peu de...
Oui, alors je crois quand même que j'étais assez contente de quitter le barreau, honnêtement. Parce que, en tout cas, ça, je me souviens très précisément d'une impression extraordinairement luxueuse en arrivant dans ce grand groupe où il y avait des cantines qui me faisaient un effet de Club Med, alors que je courais avec mon sandwich d'une audience à l'autre. Ça, c'est l'aspect un peu incroyablement décalé et accessoire, mais qui était un peu pour moi l'illustration d'un environnement plus posé. Et c'est vrai que... Non, honnêtement, oui, effectivement, je réalisais... Moi, à l'époque, pourtant, j'étais à l'UJA, qui était l'Union des jeunes avocats, où j'étais pas mal embarquée, plus pour l'aspect, d'ailleurs, revue, que sur le reste. Je me souviens que là aussi, on m'avait prêté des intentions politiques que je n'avais pas. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais avant, alors là je repars un peu en arrière, mais j'avais été représentante de l'EFB à l'UJA, et je me souviens que très vite j'ai été taclée en séance générale parce que j'avais pris la parole à propos d'un sujet qui à l'époque était relatif à la reconnaissance de l'équivalence pour les conseillers juridiques qui n'étaient donc pas des avocats, mais...
c'est vrai que ça correspond, oui, en termes de date.
Et moi, je me souviens être intervenue, et je m'étais fait, avec une violence incroyable. Je n'avais pas compris sur le moment, j'avais trouvé ça juste très violent, et après, j'ai compris que certains pensaient peut-être que je voulais me positionner politiquement dans l'organisation, ce qui était à 10 000 lieues de mes pensées, mais peut-être... cette espèce d'innocence dans le propos tenu avec une assurance qui était pas feinte, mais en tout cas qui ne correspondait pas à une ambition, avait été prise pour telle néanmoins. Et ça m'avait un petit peu, ça avait achevé de me dire que non, j'avais pas envie de, j'étais pas là pour avoir une ambition personnelle ni politique, ni d'ailleurs donc dans la profession, ni dans l'organisation d'un cabinet, que du coup ma zone de confort était quand même celle de la matière juridique, et c'est ça qui m'intéressait.
L'expertise.
Voilà, c'était plus l'expertise, effectivement.
Et donc, un sentiment de soulagement... Pardon, je vous ai coupé.
Non, je vous en prie. J'allais enchaîner.
Et donc, sentiment de soulagement quand vous êtes partie, d'une certaine manière.
En tout cas, comme on ne me retenait pas, je ne pouvais que... me réjouir, mais il se trouve que c'était quand même aussi un job très intéressant, dans un environnement très valorisant. Le move était très sympa.
Et quid du regard peut-être de votre famille sur le fait que vous quittiez la robe alors que vous venez d'une famille de juristes? Enfin, est-ce que ça...
Enfin, je restais juriste.
Oui, vous restiez juriste, mais en tout cas, le titre d'avocat ne revêtait pas une aura particulière auprès de votre famille?
Non. Ça, c'était... Non, parce que ma famille, c'était pas des avocats, c'était des juristes aussi, plutôt dans le secteur public. Donc, non, il n'y avait pas d'attachement particulier à la robe, même si j'ai une sœur aînée qui aussi avait prêté serment. Non, c'était une évolution qui correspondait au choix que j'avais fait de partir en Angleterre, de développer cette compétence internationale, puisque en fait c'est à ce titre-là probablement que ça avait fait la différence au moment du recrutement pour intégrer ce grand groupe dans lequel on travaillait en anglais et en français indifféremment. Mais certes pour exercer du droit social, mais avec des interlocuteurs internationaux, et voilà.
Ouais, donc c'est intéressant de souligner justement, parce que moi je plaide beaucoup pour plus de fluidité dans les carrières des juristes et notamment des avocats, et pour arrêter de voir le fait de rejoindre une entreprise et de devenir juriste en entreprise comme étant une voie de garage quand on veut se poser parce qu'on a 6 ou 7 ans de barre et qu'on a, on est une femme et on a des enfants. Et donc, enfin, il y a un espèce d'énorme stéréotype autour de ça que je combats à ma toute petite échelle. et en fait, je trouve ça intéressant que ça ressorte du discours que... mais arrêtez-moi si je me trompe ou si je surinterprète ou si c'est biaisé, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait cette certaine sorte de fatigue autour du métier d'avocat et notamment de ses aspects politiques pour évoluer dans un cabinet, etc. Mais qu'il y a aussi eu un poste finalement qui vous permettait aussi de plus raccrocher avec toute la partie internationale de votre cursus et de vos intérêts et que c'était aussi une belle opportunité en termes de fond, quoi, sur le fond des dossiers et sur l'expertise que vous allez pouvoir y développer.
D'autant plus que j'y suis arrivée au moment de l'arrivée des lois Aubry, puisqu'il y en avait 3, c'était de la mise en place des 35 heures, et que là, c'était un grand groupe américain dans lequel il fallait gérer à la fois des usines soumises aux 3 à 8, et des cadres internationaux qui passaient 15 jours sur le territoire français. Enfin, ça a été effectivement sur le fond de l'appréciation juridique extrêmement enrichissant et complètement, aussi très valorisant parce que ils voulaient en fait recruter en interne et avoir on avait constitué un GIE à l'époque de support à la fonction RH dont j'étais en charge de tout le support juridique social. Et donc, mais néanmoins, là aussi, la dimension politique que je n'avais pas du tout anticipée était déterminante puisque le groupe à l'époque était constitué de quantités d'entités juridiques qui vivaient leur vie et tout d'un coup on leur imposait en interne un GIE et un support juridique social centralisé. Donc là, il a fallu faire preuve de politique quand même pour s'imposer.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que la politique dans un petit cabinet, c'est une chose, et puis dans un gros cabinet, dans une grosse entreprise, c'est encore autre chose.
Absolument.
Et donc, donc finalement, vous avez quand même dû gérer avec cet aspect politique. Et est-ce que vous y avez pris goût? Est-ce que, enfin, comment ça s'est passé pour vous finalement, au-delà de l'expertise et de l'intérêt pour les dossiers?
J'ai passé 6 ans aussi. J'ai passé 4 ans et demi, effectivement, en étant assez supportée par la hiérarchie. Donc, il y avait une dimension politique, mais validée. Et puis, les choses ont un peu tourné dans l'histoire du groupe qui a racheté une grosse SS2I. On est passé de 4 000 à 9 000 salariés à l'époque en France. Ils ont l'année d'après revendu tout ça, donc tout d'un coup beaucoup moins de salariés et une hiérarchie qui avait disparu sur le projet de ce support, enfin bon, qui s'était quand même déjà pas mal imposé dans le cadre des 35 heures et des dossiers de transactions et de dossiers internes et de relations sociales. Mais néanmoins, l'histoire du groupe faisait que à nouveau, revendant cette SS2I et pas mal d'autres activités, la surface sociale en France était réduite à comme une peau de chagrin. Et du coup, au bout de 6 ans, effectivement, j'en suis repartie. Au moment où j'étais enceinte de mon deuxième enfant.
Ouais. Et cette deuxième grossesse, est-ce que ça a été l'occasion de vous lancer dans des choses dont vous aviez envie, de refaire une mise au point à certains égards, je ne sais pas, est-ce que ça a eu un rôle un peu, pas spirituel, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu de réflexion personnelle, un déclencheur de réflexion personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui était sous-jacent déjà dans votre poste?
Quelles sont les intrications? Ce serait difficile d'en nier la dimension de réflexion puisque c'est depuis que je suis sculpteur. Donc, on ne peut pas dire que ça n'ait pas eu un impact. Mais effectivement, quand je suis partie de cette grosse boîte, et que j'ai donc eu ma seconde fille, je me suis dit que j'allais prendre un peu de temps parce que je n'avais pas un énorme goût pour le square et les pâtés de sable, et pourtant si d'ailleurs, mais en tout cas non, je n'y arrivais pas à tout d'un coup devenir ultra disponible sur des choses aussi différentes. Mais en revanche, j'avais quelques années auparavant découvert un don, puisqu'il s'agit de ça, parce que je m'étais inscrite aux Beaux-Arts de Paris en cours du soir et qu'on pensait que j'en faisais depuis 15 ans. C'était la première fois que j'avais une boule de terre entre les mains, et le premier, c'est pas la première fois, vous en faites depuis combien d'années, et non, c'est la première fois. Donc ça relève du... Effectivement, j'ai découvert, j'avais ce don, donc c'est pas de mérite, hein, le don, ça vous est donné.
Mais comment est-ce que vous avez eu l'idée même de vous inscrire à ce cours du soir en
sculpture ? Ah non, les cours du soir, c'était bien avant, hein. C'était quand j'étais avocate. Quand j'étais avocate, sans enfant, un peu suractive peut-être quelque part, je sais pas, tout départ, l'origine, c'est que un jour sur la plage, je faisais une course de bateau et on était assez nombreux sur cette plage, et donc j'avais du sable et j'ai fait une forme de femme qui crawlait vers la mer, et des gens sont venus me voir en disant « Ah, mais où est-ce que vous exposez ?» Je dis « Mais de quoi il me parle ?» Je ne comprenais même pas de quoi il s'agissait, et ça m'a mis une petite germe dans mon esprit, et du coup je me suis dit « Tiens, oui, c'est ça, je vais m'inscrire à un cours de modelage de sculpture, et voilà. » Et j'ai pris goût, et je ne pensais pas en faire mon métier, mais néanmoins, eu égard à l'évolution de ce truc, au moment où je me suis arrêtée donc pour ce deuxième enfant, et qui était concomitant à la négociation de mon départ de ce grand groupe, je me suis dit « Tiens, je vais prendre un peu de temps pour la sculpture. » Mais je voulais surtout pas en faire comme on ferait, je sais pas, de la peinture sur soie ou du macramé ou ou comme une occupation. J'ai toujours été soucieuse de mon indépendance financière, donc je voulais le faire vraiment à fond.
Donc en fait, quand vous avez négocié votre départ de ce grand groupe, vous avez négocié avec en tête le fait que la sculpture deviendrait votre travail.
Non, non, j'y croyais pas. Je n'osais pas encore y croire. Non. Je me disais, tiens, non, c'est une fois calée devant mon square avec les bébés que je me suis dit, oulala, je vais prendre du temps pour la sculpture. Je vais pas rester comme ça à rien faire, et je prendrai des missions pour mettre du beurre dans mes épinards. Mm-hmm. Des missions juridiques. Mm-hmm. Et en fait, comme je suis partie à fond dans la sculpture, j'ai très vite réalisé.
Et donc c'est là que vous vous êtes inscrite aux Beaux-Arts?
Non, les Beaux-Arts en cours du soir, c'était 2 ans d'accord. avant, 3 ans avant.
Et donc là, quand vous avez, enfin, je veux dire, au moment de vous y mettre et en vous disant que bon, il y aura des missions ponctuelles, mais pour mettre du beurre dans les épinards, donc quand même le moment où vous vous dites que le square c'est bien, mais que les épinards c'est bien aussi, et le beurre dans les épinards peut aider les épinards, voilà. Et voilà. Ouais. Ce moment-là, est-ce que vous avez fait des démarches particulières, ou est-ce que, enfin, des formations particulières, est-ce que vous avez pris des initiatives particulières, ou est-ce que vous avez pris votre terre et vous avez continué finalement, juste en y passant plus de temps, ce travail de la terre?
Ouais, je pense que non.
Comment ça s'est formalisé au début ?
Je me souviens pas avoir planifié quoi que ce soit. J'ai juste été portée par les encouragements de gens qui trouvaient que c'était bien. J'ai fait une première expo peut-être, et surtout par une espèce d'énorme jouissance dans ce rapport à la matière et cette espèce d'extraordinaire magie de voir apparaître devant vous. Personnage qui vous regarde alors que vous avez eu l'impression d'y être pour pas grand chose, c'est-à-dire vous prenez un morceau de terre et puis vous faites un visage et qui assez rapidement vous regarde, c'est extrêmement jouissif. Et donc ça, ça vous porte dans, ouais. dans les choix. Et du coup, je sais pas si j'ai bien raisonné. Ce qui est sûr, c'est que comme le père de mes enfants m'y encourageait et payait le loyer, j'aurais peut-être pas pris ce risque si j'avais pas cette assurance aussi.
Non, mais bon, vous avez bénéficié de circonstances matérielles qui vous ont permis de vous dédier et de vous plonger dans cette matière, mais en tout cas, vous y êtes pleinement plongée, quoi.
Ah oui.
Et, ouais. Et vous avez parlé des visages et de... Donc, vous avez tout de suite été portée vers plutôt la sculpture, l'émergence de figures humaines.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Oui, tout à fait. Non, c'est ça qui, en fait, a porté le... C'était ça qui faisait la magie, je veux dire... si vous voulez distinguer le figuratif du non figuratif, c'était ça le fond de votre question ou pas du tout?
Oui, effectivement, qu'est-ce qui vous a porté vers le figuratif? Est-ce que ça a été une évidence pour vous d'aller vers le figuratif? Enfin, un petit peu tout ça mélangé.
C'est-à-dire que quand vous démarrez de rien, je pense d'ailleurs que toute l'abstraction nécessite quand même... une maîtrise de la figuration, mais indépendamment de ça, effectivement, moi, ce qui m'a porté, c'est cette espèce de présence, parce que ce qui caractérise mon travail, c'est cette présence dans le travail qui est très jeté sur le papier. Hein. Je fais pas des choses très lissées, très finies, pas du tout, mais elles sont très vite très présentes. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui a dû emporter mon adhésion. Ça, c'était pas de l'ordre du rationnel, c'est de l'ordre une espèce d'enthousiasme et de transport et de jouissance de la création. Ça me paraît tout d'un coup effectivement ça qui a dû l'emporter. Parce que je suis quand même par ailleurs aussi quelqu'un de très logique. Et la logique juridique me faisait beaucoup... Enfin, j'ai aucune mémoire. Mais en revanche, je suis extrêmement logique. Et j'ai vraiment, vraiment adoré. Et si j'ai des regrets, c'est peut-être simplement sur cette jouissance aussi que j'avais sur... la logique juridique qui en droit social trouve matière à combler les éventuelles incertitudes dans les lois et dans les règles applicables. Donc ça, j'ai eu cette jouissance aussi et donc je ne suis pas, j'ai pas lâché quelque chose qui me dégoûtait dans la matière traitée, plus peut-être dans la façon de le négocier avec les organisations. Mais pas la matière, j'adorais. Oui. Et là, effectivement, dans la terre, dans la création, là, j'étais emportée et happée, j'avais effectivement pas d'organisation à subir. Donc, ça m'a paru d'une séduction très grande. Après, je suis un peu revenue. Je comprends aussi que même dans ce métier-là, le savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est là aussi très important.
Oui, et donc... Donc, ce que je comprends, c'est voilà, vous avez suivi, vous avez développé votre art comme sculptrice en suivant et en vous laissant emporter par cet élan dans ce que vous avez créé. Donc, voilà, finalement, la jouissance, c'est ce qui vous occasionnait le plus de plaisir a été ce dans quoi vous vous êtes de plus en plus plongée, et en l'occurrence, le figuratif et la création de figures qui ont une présence et la recherche de justement la création de présence. Ça m'intéresse beaucoup. Comment est-ce qu'on crée de la présence? Parce que même une figure imposante peut ne pas forcément créer de la présence.
Oui, tout à fait. Mais ça je ne sais pas si j'en ai grand mérite. Je pense que ça fait partie du don que j'ai la chance d'avoir. Je sais qu'en 2013, je crois, j'ai eu le prix de la sculpture animalière, qui n'est pas du tout mon... L'animalier n'était pas du tout mon univers spécifique, mais il se trouve qu'on m'avait demandé de participer à un salon d'art animalier. Et donc, j'avais fait une série de girafes, d'ours, de chevaux. Et le jury m'a attribué la médaille d'or en étant frappé par cette présence. Donc, ce n'est pas dans la précision. Souvent, l'art animalier, moi, je trouvais que c'est quelque chose d'assez rigide, qui laisse peu de part à l'émotion. Et néanmoins, effectivement, là encore, j'ai eu la chance de... Et en tout cas, c'est ce qui a frappé le jury, c'est pour dire qu'il n'y a pas que moi qui le sens comme ça. Et c'est ce qu'on me dit, c'est cette espèce de mouvement et de présence qui ne tient pas aux détails de la façon dont on traite les sujets, mais c'est au contraire, c'est justement l'aspect jeté sur le papier et on sent que tout est possible. C'est-à-dire que je pense que l'absence de précision dans le traité permet, s'il est juste, Donc, les choses simples, si elles sont justes, sont celles qui permettent d'emporter la présence, qui est quelque chose qui est antinomique avec le caractère figé d'une sculpture. Eh bien, ça, on le retrouve dans le traité, qui est un traité très sur le vif.
Et vous avez dit, c'est pas juste moi qui parle de présence, c'est les retours qui m'ont été faits par ce jury, par les personnes qui voyaient mes sculptures. Est-ce que, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais de manière beaucoup plus générale, hein, mais prenons l'exemple de vous et du rapport à vos sculptures. Et est-ce que vous vous êtes façonné, et est-ce que vous avez façonné votre art à partir des retours qu'on vous a fait sur vous et sur votre travail? Ou est-ce que vous diriez que vous avez cherché à obtenir quelque chose et il se trouve qu'on l'a reconnu? Ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est dans je crée quelque chose et il se trouve qu'on me parle et on me ramène souvent à la présence que j'arrive à créer, donc je comprends que mon talent est là, et donc je le cultive, et en prenant conscience par le regard des autres, je l'entretiens et je l'approfondis et je l'exacerbe d'une certaine manière, donc quelque chose qui serait un peu révélé par le regard d'autrui et dont on se saisit et ensuite qu'on exploite plus, avec plus de conscience, ou est-ce que à l'inverse, on serait plus dans quelque chose que vous avez cherché à produire, cherché à créer, et il se trouve que, bon, on vous a confirmé que c'est effectivement ce qui se passe.
Non, ça c'est la première version. Oui, j'entends très bien votre question, et c'est exactement la première version, et c'est un petit peu ce qui me caractérise. J'ai jamais eu vraiment de plan de carrière, et c'est vrai que donc je n'ai pas cherché à exprimer quelque chose et travailler à arriver à me faire comprendre. C'est vraiment pas ça. C'est vrai que je suis partie dans ce truc-là, que les choses s'imposaient à moi et que j'ai été encouragée dans cette voie en pensant qu'elle pouvait être viable parce que j'avais des retours encourageants. Et donc je me disais, je ne me trompe pas. C'est probablement ce pourquoi je suis le plus douée. Donc ça, c'est vraiment effectivement un encouragement dans quelque chose que je n'ai pas anticipé du tout. Vraiment pas. J'ai jamais dessiné enfant. Je m'y mets maintenant et je vois que c'est finalement pas infaisable. Mais non, il y avait plein de pancartes. Et pourtant, dans ma famille, il y avait certes des juristes, mais il y avait en réalité aussi pas mal d'artistes, mais que je n'imaginais pas du tout dans mon univers, et il semblerait que ça ressurgisse.
Et vous avez dit, donc voilà, il y a le savoir-faire et ce don, et vous l'appropriez, vous approfondissez, vous avez des retours positifs, vous apprenez à trouver votre style, votre patte, votre talent, et ce qui fait que vos sculptures se démarquent, et ensuite vient le temps du faire savoir, qui n'est pas la même chose que le savoir-faire et qui se rapporte plus à la communication et presque plus aux politiques à nouveau, finalement.
Exactement, absolument. C'est toujours ce que je dis.
Vous êtes rattrapé par ça.
Exactement, mais c'est toujours ce que je dis, c'est que j'avais absolument sous-estimé ce que en prenant l'option, enfin, en suivant cette espèce d'appel incroyable et tribal un peu, donc en dehors de toute verbalisation et en tout cas en dehors de toute stratégie qui était ce travail artistique et cette rencontre avec la matière, vraiment j'étais loin de soupçonner que, et de comprendre, et c'est probablement un manque d'immaturité, mais enfin c'est comme ça, que le faire savoir était déterminant là aussi. Et donc, autant c'est une grande jouissance de créer, de produire, entre guillemets. Ça demeure, mais vraiment, un moment de grâce. Autant, effectivement, répondre à des dossiers, même à des choses anodines, est pour moi très compliqué. Et d'ailleurs, presque même plus compliqué, finalement. J'ai vraiment le syndrome du cordonnier mal chaussé, parce que, et d'ailleurs, c'était amusant, mais quand j'ai pris l'option de quitter le monde de l'avocat, et que à des artistes, je dis que j'étais avocat, autant les avocats vont tout dire, ah, c'est formidable, c'est super, bravo, génial. Et autant pour les artistes, quand vous leur dites que vous avez été avocat, ils disent, ah bon, mais t'es folle, tu sais faire autre chose. Donc ça, c'est très, très drôle parce que déjà là, voilà, il y a une espèce de truc. Mais en revanche, effectivement, moi, au milieu des artistes, et en tout cas des jeunes artistes qui sont très formatés, verbalisation, communication, dans l'art contemporain en tout cas, et des jeunes des écoles de beaux-arts avec lesquels je travaille dans l'atelier en ce moment, me frappent par cette espèce de très grande aisance qu'ils ont avec l'aspect verbalisation, intellectualisation de leur travail. Et pourtant, moi, pour d'autres artistes, pour qui, effectivement, on peut penser que je maîtrise le verbe, ayant été verbeuse, et bien néanmoins, je sais, moi, que je suis, j'ai le syndrome du cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire que tout ce qui est administratif, alors on n'est plus dans la verbalisation, mais en tout cas dans ce qui est censé être la logique administrative du monde juridique, ça c'est pour moi, je fais presque une phobie administrative plus grande.
Je peut-être. Pense qu'on peut être très bon dans l'administratif pour les autres et très mauvais dans l'administratif pour soi-même.
Ouais, ça, je sais pas si je suis bonne pour qui que ce soit en administratif, c'est sûr que je suis mauvaise pour moi. en tout cas, voilà, c'est un
Et quand est-ce que la question s'est posée? Parce que le moment où la question se pose, d'envoyer un dossier, une candidature, un book, c'est que déjà on commence à sortir de la dimension de je crée chez moi et ça me procure beaucoup de plaisir et qu'on commence à rentrer dans une dynamique de je crée et ça me procure beaucoup de plaisir, mais ça peut être sûrement plus que ce plaisir et donc et ça impose quand même aussi de du coup se regarder comme une artiste et de poser le mot d'artiste de sculptrice sur son travail. Quand est-ce que ça s'est posé ça? Est-ce que c'est venu rapidement? Est-ce que ça vous a posé des difficultés? Qu'est-ce que...
Alors juste je voudrais pour moi encore quand vous dites que ça peut être plus que le plaisir, non, le plaisir est au-dessus de tout, c'est vraiment ce qui est vraiment dans tout ce qu'on peut vivre, ce qu'il y a de plus, à mon avis, fort. Après, il y a la reconnaissance qui, c'est vrai aussi quand même, et pas désagréable. Et quand est-ce que ça arrive, je saurais pas bien dire. C'est des petites choses quand même qui s'accumulent. Donc, ces prix qui sont en fait le moment où c'est officialisé, mais ça ne change rien sur votre propre plaisir et jouissance. Là, je viens de travailler pour un projet sur la Shanghai Tower à Shanghai, où j'avais été contactée il y a 2 ans par des designers américains qui avaient vu mon travail sur Internet. Et ça, c'est vrai que c'est encore une autre dimension. C'est pas tellement la reconnaissance artistique pure, parce que voilà, les goûts et les couleurs et surtout. Mais c'est vrai que je peux pas dire que c'est que ça m'a pas un peu grisé d'imaginer être les sculptures les plus élevées dans le ciel au monde, puisque au 100e étage de cette tour, vous êtes au-dessus de tout ce qui est habitable dans le monde. Donc voilà, tout ça, c'est vrai que c'est grisant. Et comment ça arrive? Mais par hasard, pas à force de. À force, là, c'est Internet qui a fait un relais. C'est pas moi qui... Voilà, ça, je sais que...
Mais le premier prix, c'est quoi? C'est un dossier déposé pour un concours? Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce que ça fonctionne, en fait? Est-ce qu'on dépose des dossiers et des books? Est-ce que ce sont des...
Non, l'espèce, c'est...
sélectionneurs qui viennent chercher les articles?
Ça existe et ça fonctionne très bien et ça fonctionne sûrement beaucoup plus vite quand on sait que ça fonctionne comme ça, et c'est le cas des artistes qui sortent des Beaux-Arts où on leur apprend tout ça. Moi, je suis arrivée en Béotienne et je n'étais que contente de mettre les doigts dans la terre, et honnêtement, non, je connaissais pas ces réseaux, et d'ailleurs, ils sont pas adaptés aux gens qui arrivent tard sur cet univers-là comme moi, puisque j'avais perdu tout ce temps au barreau et ailleurs. Donc c'est pas, je serais pas bonne sur le modus operandi pour les jeunes, et ça ils l'apprennent très bien dans les écoles. Donc ça non, moi j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Moi ça a marché par des pairs ou des gens qui m'ont dit tiens tu devrais faire ça, et ou alors qui ont parlé de moi. Je n'ai rien fait et ça fait partie de mes faiblesses dans l'organisation ou dans l'anticipation d'une manière alors je sais Si, Provence.
Vous avez été très portée par l'entourage.
Oui, par les rencontres.
Le faire savoir.
C'est-à-dire que là, par exemple, encore, il y avait un concours. Un ami m'a relancé 10 fois pour savoir si j'avais postulé. Je ne le faisais pas. Et puis comme pendant le confinement, je faisais pas grand-chose. Je me suis résolue. Mais ça, c'est mes faiblesses. Je n'ai pas de plan organisé. Et pourtant, ça existe. Et je pense que ça fait partie aussi de la réussite, même dans cet univers. Et surtout, peut-être.
Oui. Non, mais moi, au-delà de la généralité, de si ça existe et de si ça... ce qui m'intéresse, c'est vous, finalement, votre trajectoire, comment elle s'est construite et à quel moment est-ce que vous avez commencé à dire que vous étiez une artiste, à poser ce mot sur votre travail et une sculptrice. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous qualifier comme telle, les moments où... vous voyez ces petites étapes dans une reconversion, dans un changement de vie ou quoi que ce soit qui font qu'on devient quelqu'un d'autre et que c'est pas juste un loisir, mais que c'est qui on est et progressivement on l'assume. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse en fait comme cheminement.
Oui, alors je sais pas si je saurais précisément comment ça s'est passé. Ce que je sais, c'est que le jour où on a parlé de moi comme sculpteur plutôt que comme avocat, ça m'a libéré pas mal. Mais néanmoins, c'est compliqué parce que justement, ce qui intéresse, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parle, c'est le parcours. Or, moi, j'avais envie je trouve que ça n'a rien à voir. On ne justifie pas son parcours artistique, on ne le valorise pas par son passé d'avocat ou de juriste. Et néanmoins, manifestement, dans l'histoire à raconter, ça s'est dû aussi. Voilà, ça c'est ma petite...
Ah oui, alors, je vous arrête tout de suite parce que moi, ce qui m'intéresse chez vous, c'est pas que vous soyez une sculptrice qui était avant avocate, c'est que vous soyez une avocate que vous n'êtes plus avocate.
Je sais bien.
Et il se trouve que vous êtes sculptrice, mais vous seriez éditrice de livres d'enfants.
Absolument.
Ou créatrice de bijoux, ce serait la même chose. Donc, c'est pas... mais cela dit, je comprends que vous êtes aussi sollicitée par d'autres médias sur l'aspect... une espèce de curiosité, comment est-ce qu'on peut être une artiste alors qu'on a été avocate, ce côté un peu que comment est-ce qu'on peut avoir un tel cerveau gauche quand on a eu un tel cerveau droit, peut-être, je sais pas, mais cela dit, peu importe, mais je comprends aussi votre envie d'être une sculptrice et juste une sculptrice, et d'ailleurs je sais pas si je comprends bien votre propos là-dessus.
C'est un peu l'inverse.
Vous avez dit à un moment, j'ai tout ce temps que j'ai perdu comme avocate puis comme juriste, vous avez parlé de la notion de perte de temps, et ça
j'avais bien j'avais bien conscience en le disant que ça pouvait générer surtout justement dans le contexte d'avocat qui est plutôt le vôtre, la perte, elle est dans la place qu'on se fait dans le monde artistique d'aujourd'hui en France. C'est-à-dire que en France, on encourage les jeunes talents qui sortent des écoles. Quand vous arrivez après avoir passé 6 ans à faire autre chose, à vous de vous démerder. Vous n'avez pas le support des institutions, des programmes, des résidences, des trucs. C'est ça. Ça s'appelle la perte du temps. C'est par rapport à ce qui est proposé, pour accompagner les artistes. Ça, vous n'en bénéficiez pas quand vous n'arrivez pas par la voie royale.
D'accord. Et donc vous, cette transition, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où on vous a qualifié comme artiste, quelqu'un d'autre que...
Mais non, c'est ça que je voulais dire en fait. Quand je disais que, je me souviens pas quand c'était, mais je sais que ça a été quand même, tous les gens qui me connaissaient comme juriste ou avocat. Et justement, je me disais, mais quand est-ce qu'on va oublier ça? Quand est-ce qu'on va oublier ça? Et j'en avais. Et aujourd'hui, maintenant, les gens découvrent que j'ai été avocat ou juriste, ou pas d'ailleurs. Mais c'est pour moi ça le signe de ce que je suis passée du bon côté de la force.
Oui, d'accord. Et vous vous souvenez de votre premier prix, de votre première exposition? Parce que les premières fois sont quand même aussi les plus.
Les premières. Oui. Alors, la première exposition, je m'en souviens très bien. C'était dans un appart chez une amie. Et là, évidemment, c'est un gros succès parce que c'est la première fois que vous exposez. Donc, Donc tout le monde vous, enfin vous vendez pas mal de pièces, ce qui se reproduit après plus jamais dans votre carrière, pas dans ces proportions-là, parce qu'effectivement c'est des copains et que donc voilà. Donc ça, je m'en souviens très bien. Ça n'avait rien de d'organisé, de professionnel. Après, effectivement, j'ai travaillé avec des galeries, et là c'est différent. Déjà, on espère que ça allège votre partie de communication, ce qui est pas d'ailleurs complètement à 100% vrai, mais c'est peut-être ça aussi qui vous fait penser que vous êtes une artiste plus qu'une plus que quelqu'un qui s'occupe.
Oui, et ces galeries, c'est vous qui êtes allé les chercher? Non. Ce sont elles qui sont venues voir?
Je pense à une dans l'espèce, dans les deux d'ailleurs. Oui, les galeries, j'ai tenté une ou deux fois d'approcher des galeries, mais ça ne marche pas, ça. Elles sont trop sollicitées. Non, les galeries, j'en ai une en Belgique et en France, et deux, trois en France. C'est effectivement, dans un cas, c'est quelqu'un que j'ai rencontré... voilà, sans intervenir, mais dans les autres cas, ce sont elles qui ont rencontré mon travail, je ne sais pas comment, et m'ont contacté.
Et vous avez parlé ensuite du rayonnement de votre travail à travers Internet, et justement ce travail finalement de communication qu'a porté votre œuvre, puisque manifestement c'est de là qu'a découlé, bah, par exemple, votre invitation à Shanghai, etc. C'est vous qui l'avez initié? Est-ce que c'est justement des galeries qui vous ont accompagné?
Non, pas les galeries, et je l'ai initié dans la mesure où ce sont des images qui viennent de mon site, où il y a eu un petit film. Je pense qu'il a eu un impact, l'air de rien, parce que, enfin, en tout cas, c'est celui qui comporte le plus de personnes qui l'ont vu, qui s'appelait The 10 Most Impressive Sculptures in the World. Et vous avez un défilé de 10 sculptures, donc pas toutes fantastiques, certaines même sans intérêt, mais je ne sais pas qui a fait ça. C'est une petite vidéo, et vous avez genre Mannequin Piece, une œuvre de Raume et Pienza, qui sont des jolies œuvres. Voilà, des choses plus ou moins intéressantes. Et puis, ça se termine sur une image de mes sculptures, de deux silhouettes de grillage dans la brume, qui est une photo que j'ai prise et qui devait être sur mon site. Et je sais pas comment elle est arrivée là. Mais ça, manifestement, ça a beaucoup, beaucoup circulé. Donc, c'est un peu la magie d'Internet.
C'est fou, ce hasard, ouais.
Ouais. Je pense, hein. J'en sais rien, ceci dit. Je subodore que c'est ça, parce que ces deux designers américains qui ont tous ces gros projets, m'ont dit qu'ils m'avaient connu par Internet. Ils m'en ont pas dit plus. Mais j'imagine que c'est pour que ça les ait, enfin, voilà, peut-être qu'ils ont tapé Impressive Sculpture. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais, voilà.
Oui, mais c'est même ça, c'est-à-dire que Impressive Sculpture, enfin, vous, je vous imagine mal en train de travailler votre SEO, votre référencement via votre...
Ah non.
J'allais vous demander. Voilà, enfin, je veux dire, c'est complètement antinomique avec tout ce dont vous avez parlé avant. Donc, du coup, même en tapant Impressive Sculpture, la probabilité qu'on tombe sur vous...
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
À un moment où vous, en plus, vous n'avez pas travaillé au préalable, votre référencement semble assez faible.
Oui.
Et même votre site internet, ça a été... est-ce que vous avez mis du temps à faire votre site internet?
Je sais pas quand, un site internet qui était fait vraiment par un copain rapide et mal. Je l'ai refait il y a 2 ans en me jurant que j'essaierais de le mettre à jour, et il est toujours pas à jour. Donc, non, je me rattrape maintenant. Maintenant, la seule chose que je maîtrise, c'est Instagram. Je sais prendre les photos, les mettre direct sur Instagram.
C'est ce que j'allais vous demander, si vous aviez Instagram.
Si.
Donc, vous avez Instagram.
Oui.
Donc, le plus fiable pour aller regarder votre œuvre, c'est
exactement.
Instagram.
Exactement. Maintenant, c'est ça. J'espère que ça va durer, ce truc-là, parce que après Facebook.
Et vous y êtes sur Pauline
Aurel. Pauline Aurel, Aurel. Mais oui.
Ouais, ça y est, je vous ai trouvé. D'habitude, je ne le fais pas, mais
pour le visuel, ça.
Puisqu'on est en train d'en parler, c'est du live, d'accord, très bien. Et vous avez évoqué des concours et des choses maintenant qui sont très ambitieuses. On est loin d'être juste dans le dans l'appartement d'une copine, même si les appartements des copines, c'est super. la tour extrêmement haute à Shanghai où se trouve votre sculpture, etc. Ça, ça vous fait quoi quand vous regardez ce parcours et que vous vous dites que maintenant vous êtes exposée là-haut, enfin, je veux dire,
ah oui, ça m'a beaucoup, non, non, ça m'a beaucoup crissée. Alors, je sais pas, je suis toujours très angoissée par la réalité de, quand même, de, du travail réalisé. C'est-à-dire que là, par exemple, pour Shanghai, ça fait un an que ça dure. J'y suis allée 4 fois, mais la dernière fois, c'était mi-janvier. J'en suis revenue, je trouvais que les gens toussaient beaucoup. Et je pensais, j'étais convaincue que c'était parce qu'ils ponçaient les murs de marbre autour de mes sculptures. Mais voilà, en rentrant, j'ai compris que ça pouvait être autre chose. Maintenant, j'en ai la confirmation. Mais elles ne sont toujours pas en place parce que justement, je les avais sorties de leur boîte. Mais comme les marbres n'avaient pas fini d'être poncés, je disais que je reviendrais plus tard. Je ne sais pas quand sera ce plus tard, mais voilà, ça me fait à la fois, je trouve ça grisant, à la fois, j'attends de voir que vraiment c'est conforme quand même à l'esprit et que ce soit fait pour me dire que c'est bien. Parce que oui. ça relève quand même de l'ordre plutôt de la commande. Travailler sur commande, c'est très grisant. Moi, j'ai trouvé très intéressant, alors qu'au départ, il y avait un truc qui m'intéressait, c'est de me laisser guider par je sais pas quoi, mais en tout cas la matière, n'importe quoi, et partir sans savoir, quand je prenais un truc, ce que j'allais en faire, que ce soit un morceau de terre ou un fil de fer ou un morceau de grillage. Très très souvent je le prenais en disant tiens, je commence et vers où ça me mène, et ça c'est une grande liberté. Mais je trouve que les contraintes de la commande sont aussi extrêmement grisantes et vous poussent un peu dans vos retranchements, vous obligent à d'abord comprendre l'esprit de ce qui correspondrait non pas forcément d'ailleurs à l'esprit du commanditaire, mais au lieu dans lequel ça va être vu et vécu. Donc ça, c'est intéressant, et donc c'est ça que j'attends de voir, que par exemple pour ce projet à Shanghai, pour cette Shanghai Tower, voilà, j'en serai fière et contente quand je verrai que effectivement ça a la gueule que ça doit avoir. Ce qui n'est pas complètement gagné parce que voilà, j'avais pas pensé que ce serait au milieu d'un marbre aussi luisant, par exemple.
Oui. Et vous vous souvenez de votre première commande ?
Oui.
La première création sur commande ?
Alors, ouais. Je sais plus.
Ça fait quoi de... J'allais dire, je... En fait, quand vous avez abordé les commandes, j'étais en train de me dire que j'avais envie d'évoquer l'aspect financier avec vous et tout ce que c'est que... Comment on valorise son œuvre comme artiste, comment on apprivoise la notion de cote, est-ce qu'il y a une cote des sculptures, comment est-ce que tout ça fonctionne.
Oui, bien sûr. Oui.
Et je suppose que ça a un lien aussi avec la partie commande externe, c'est-à-dire travailler sur commande. Mm-hmm. Comment vous avez évolué dans l'aspect financier de votre travail, en fait, comme sculpteur ?
Alors, ça, c'est à partir du moment où vous êtes dans une galerie, c'est vraiment un truc qu'on ne maîtrise plus vraiment. C'est-à-dire que ça s'appelle la cote, effectivement. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui faites vos prix. C'est le prix auquel se vendent vos œuvres dans une galerie. C'est ça qui fait le prix. Donc, après, soit la galerie, contribue à l'augmentation de vos prix, soit pas. En l'espèce, je ne sais pas très bien ce qu'il en est. C'est vrai que des commandes à Shanghai ont fait peur parce que on pensait. Enfin, mais moi, je ne sais pas comment ça évoluera. Mais la politique du prix, moi, j'aurais été bien incapable, moi, de dire tiens, ça vaut tant. D'autant moins que la valeur de mon travail est très souvent, sauf pour le bronze, où vous avez la matière qui coûte très cher. Et donc, effectivement, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une très grande liberté des prix. Moi, tout mon travail de grillage, c'est essentiellement l'intérêt dans le geste artistique, ce n'est pas dans le matériau. Donc, ce n'est vraiment pas un truc que je peux imposer. Et c'est vraiment parce que des galeries les ont vendues et ont mis un prix et ont évalué la chose que ça s'est fait comme ça.
C'est génial. Vous avez pu déléguer à autrui la partie...
Ouais.
Qui pose problème à beaucoup de personnes et même aux avocats et à tout prestataire de service qui est, mais combien vaut mon...
Bien sûr, bien sûr. Et après, en fait, vous êtes un peu tenu à ça parce que moi, je ne travaille pas que sur des commandes de gens inconnus. J'ai quand même aussi des gens qui me connaissent ou qui me suivent et qui me demandent des choses et je me recogne à chaque fois quand même à la difficulté de l'évaluation. Alors évidemment, quand on a une cote, c'est plus facile de pouvoir dire, voilà ce qui est vendu dans les galeries pour tel format et vous rappelez porté au format, ce qui est d'ailleurs assez ce qui peut être absurde, c'est-à-dire que vous pouvez passer moins de temps sur une grande pièce et que sur une petite, mais néanmoins, il est rare que vous ayez une petite pièce plus chère qu'une grande. Donc voilà, tout ça est un espèce de jeu à matrice variable.
Oui. Et ça vous fait quoi de vous dire que vous gagnez votre vie comme sculptrice ?
Ah, ça me fait plaisir. je suis contente. Mais alors, ceci dit, je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Je suis pas un Jeff Koons ou un qui que ce soit du tout. Mais néanmoins, je fais partie effectivement des artistes qui vivent de leur art, et ce qui est déjà pas si courant. Donc ça, c'est vrai que c'est satisfaisant, mais que j'aurais pas. Pas sûr que j'aurais pu survivre sans en vivre. Autrement dit, voilà, j'avais pas de fortune personnelle à gérer. J'ai toujours été indépendante financièrement, donc heureusement que ça a fonctionné.
Oui, non mais j'en doute, mais quand même d'un point de vue un peu, enfin voilà, c'est pas rien quoi de se dire que.
Oui, oui. Non.
Bah, que vous vivez de votre travail comme sculptrice, comme artiste, alors que c'est le milieu de l'art, c'est un voilà. peu comme la plupart des milieux, mais il y a vraiment ce côté où à la fois on voit des artistes dont les codes s'envolent et le marché de l'art fait beaucoup de bruit sur juste cet argent qui circule et qui semble un peu sortir de nulle part, etc. Et puis à côté de ça, il y a une marée d'artistes et ce qui ne juge absolument pas de leur qualité, mais enfin voilà,
absolument, tout à fait.
Voilà, et donc du coup, et en plus, en prenant en compte le fait que vous n'êtes pas sorti d'une école d'art,
non, c'est l'axe,
vous êtes arrivé sur le tard là-dessus, etc. Tout ça, c'est quand même intéressant de se dire maintenant, ben. Mine de rien, vous en vivez et vous faites partie de ces artistes.
Qui voilà, tout à fait. Non, absolument. Je ne suis pas dans ceux dont vous parliez en premier. Je ne suis pas dans l'art financier. Je ne pense pas que ce ne sera jamais un jour parce qu'il y a d'autres ingrédients qui interviennent dans les raisonnements des gens qui rentrent dans ces cercles-là, qui ne sont pas forcément liés d'ailleurs à l'art. Donc ça, j'en suis pas. Mais effectivement, néanmoins, j'arrive à en vivre. Je ne sais pas si ce sera le cas l'année prochaine, mais néanmoins, déjà, c'est vrai. C'est une chance.
Et comment est-ce que vous entrevoyez les prochaines années ? Est-ce que vous avez des projets ? Est-ce que vous avez des rêves comme artiste ? Est-ce que il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez travailler ? Comment vous voyez les choses ?
Je ne sais pas. Je trouve qu'effectivement. Ces histoires de commandes sont très rassurantes parce que vous savez que vous, jusqu'à leur exécution, vous pouvez en vivre, peut-être. Néanmoins, je n'ai pas un carnet de commandes qu'aurait un Jeff Koons, sûrement pas. Et en plus, ce n'est pas du tout mon créneau. Donc demeure cette incertitude. Et puis aussi, quand vous êtes sur des commandes, vous êtes un peu obnubilé par la réalisation de ces projets, s'ils sont un peu importants. Et du coup, je me dis que peut-être si on passe par des périodes plus difficiles, ça vous oblige peut-être à retourner un peu au cœur de ce qui vous... indépendamment de projets, de savoir ce qu'on veut dire. Même si je ne sais pas très bien ce que je veux dire vraiment, ça a toujours été mon problème, mais en tout cas de ce qu'on veut creuser. Mais du coup, idéalement, j'aimerais effectivement avoir les moyens de faire des choses de plus en plus, en tout cas, de continuer à créer. Avoir les moyens de continuer à créer. C'est ça mon objectif. Alors évidemment, si je suis reconnue, j'en serais ravie. Mais c'est mon ambition première, c'est d'avoir les moyens de continuer à vivre de ça. Effectivement, de ne pas avoir besoin de faire autre chose, ce dont je serais probablement plus capable d'ailleurs.
Et qu'est-ce que... Je dérive un peu, mais... Et ma question va être très mal posée parce qu'elle est encore un peu floue dans ma tête, mais qu'est-ce que... À votre avis, quelle est votre présence à vous qui cherchez à créer de la présence avec votre œuvre?
Dans mon œuvre, où est ma présence à moi?
Ouais. Ben oui, c'est-à-dire comme artiste, je sais pas, je m'interroge sur cette présence que vous arrivez à créer avec vos sculptures. Qu'est-ce que ça implique dans votre rapport à vous, à la notion de présence?
C'est intéressant, très intéressante question, parce que justement, moi, c'est vraiment une interrogation que j'ai. C'est que très souvent, j'ai le... c'est marrant de... j'ai pas un ego... j'ai très souvent le sentiment de pas avoir l'ego suffisant pour imposer les choses, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel on vit. Et c'est ce qu'on, d'ailleurs, qu'on pardonne toujours aux artistes. Et d'ailleurs, je me demande dans quelle mesure... ça participe pas aussi de leur reconnaissance, c'est, voilà, ça, c'est un artiste, il a un ego démesuré, il s'impose. Moi, très souvent, quand j'ai exposé avec un ou deux autres artistes, j'attends qu'ils se positionnent, et ensuite, je me mets dans les trous. et je fais un petit complexe de ça, je me dis, oh là là, je serais une vraie grande artiste, je dirais, non, excusez-moi, c'est moi qui me mets là, et vous vous mettrez à côté. Ça, je regrette. Et peut-être que c'est justement, parce que je sais pas faire ça, que j'aime... peut-être être présente dans le dans la l'œuvre elle-même ou dans le dans oui voilà c'est peut-être une réponse à c'est peut-être là que je me situe plus que dans la personne ou la personnalité qui s'imposerait je sais pas mais dans la question que vous posez j'ai cru apercevoir un début de réponse qui me plaît en tout cas.
Ah, mais c'est amusant parce que je ne sais plus si je le diffuse avant ou après vous. Attendez, je vais voir mon petit planning. Je vais voir mon petit planning. Ouais, juste après votre interview, la semaine après la diffusion de votre interview, je vais diffuser l'interview d'un avocat qui exerce au Japon, un avocat français qui exerce au Japon. Et en fait, on a eu toute une discussion et on a parlé notamment de l'ego et de la place de l'ego au Japon et qu'au contraire, au Japon, il n'y a pas d'ego, il n'y a que du collectif. Ouais. Et on est arrivé à cette sorte d'articulation où en fait, lui aussi, il aime bien avoir un ego assez effacé. Et pas, c'est quelque chose qu'il n'aime pas particulièrement dans la culture occidentale et notamment dans la culture française. Le fait que pour que le succès revienne un peu à briller, au fait de un côté un petit peu exhibitionniste de sa personne, un caractère qui s'affirme en prenant de la place sur les autres, c'est pas quelque chose avec lequel il est très à l'aise. Et donc ça me fait complètement penser à ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi parce que il s'est développé au Japon comme un avocat français qui s'est développé au Japon. Donc en étant quand même un petit peu particulier parce que quand bien même il n'est pas dans un ego
par rapport aux autres il en a un
occidental classique il est quand même un petit peu et en fait c'est enfin voilà il en a fait de ça voilà il a réussi quand même à briller dans cette volonté de ne pas briller d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait un petit peu penser à ça, votre réponse.
Ouais.
De trouver une manière dans sa personnalité d'être quand même là, quand bien même on n'est pas là de manière écrasante ou en s'imposant. Ou voilà,
Non, non, c'est vrai. Ah, bah, je vais être très contente. Je vais pouvoir m'enorgueillir d'avoir su m'imposer dans mon œuvre et en la regardant.
Et quelle est votre dernière joie, Pauline?
Ma dernière joie, c'était d'évoluer dans l'atelier dans lequel je travaille en ce moment à Pantin, sur le bord du canal de l'Ourcq, qui devait se terminer au printemps, à l'été, parce que les travaux qui devaient transformer cette usine de 20 000 m2, qui est l'atelier que je partage, en projet immobilier, a été reporté. Et ça a été une source de grande joie. Je me suis dit, ah, ouf, encore quelques mois dans ce lieu magique.
Et qu'est-ce que vous avez fait de votre robe?
Qu'est-ce que j'ai fait de ma robe? Elle doit être dans une malle, je crois, dans ma cave.
Une malle à la cave, très bien. Ben, merci beaucoup, Pauline.
Mais je vous en prie.